On a fait 3 acquisitions, une en commerce électronique, 2 en approvisionnement stratégique, dont une passablement importante qu'on vient de compléter il y a à peine quelques mois.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 123e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement plus de 30 millions de dollars de publicité Facebook à l'année, G7 Media aide depuis 9 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de G7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. Pour la deuxième fois sur Hypercroissance, j'ai l'immense honneur de discuter avec Luc Filiatro, PDG de MDF Commerce, anciennement connu sous le nom de Mediagriffe. Luc qui avait été avec nous lors du 34e épisode du podcast pour nous parler de sa carrière en affaires tout à fait admirable, récidive aujourd'hui en nous parlant spécifiquement des changements qu'il a apportés à l'entreprise qu'il dirige depuis plus de 2 ans maintenant. En plus du nom qui a changé, Luc a également accompli certaines acquisitions dans les derniers mois, et la plus grande source d'entre elles, celle de Periscope, se chiffre à 92 millions de dollars US. Pendant une quarantaine de minutes, on parle donc des changements que MDF Commerce a connus lors des 24 derniers mois. Sans plus attendre, ma discussion avec Luc Filiatro. Luc Filiatro, vous êtes le président et directeur général de MDF Commerce, anciennement connu sous le nom de Mediagriffe. Lors du 34e épisode de Hypercroissance, vous nous avez fait l'honneur de vous joindre à nous en nous parlant de vos exploits du passé, en ayant notamment dirigé les entreprises Newron, Belzin, Einstein, avant de revenir et de devenir plutôt le dirigeant de MDF Commerce. Luc Filiatro, merci beaucoup d'être de retour sur le podcast aujourd'hui.
Ben merci Antoine, un plaisir de te revoir 15 mois plus tard. Pas tout à fait sorti de la pandémie là. D'ailleurs, les nouvelles sont pas tellement bonnes. Quand on regarde ce qui se passe en Europe là, on a l'impression que ça recommence cette affaire là.
Ouais, faut toujours regarder ce qui se passe de l'autre côté du continent présentement pour avoir un petit signal d'alarme sur les prochaines semaines. En tout cas, on touche du bois et on se croise les doigts. Mais je pense que ça va être intéressant de discuter, Luc, aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup de changements qui sont arrivés entre la dernière fois qu'on s'est parlé maintenant, dont un rebranding pour ton entreprise. Je te le mentionnais un petit peu avant le podcast. Au 34e épisode, tu étais le PDG de Mediagriffe. Maintenant, tu es le PDG de MDF Commerce. Donc, on va en parler. Mais j'aimerais peut-être, si tu peux situer un petit peu l'audience aujourd'hui, parce qu'on n'en avait pas tellement parlé dans notre dernière conversation, Luc, si tu pouvais expliquer un petit peu à notre audience d'hypercroissance aujourd'hui, qu'est-ce que MDF Commerce et pour quelle raison t'as rejoint l'organisation en 2019?
Bonne question. Ça fait longtemps que je suis pas remonté aussi loin. Là, MDF Commerce, c'est le nouveau nom depuis septembre 2020, a été fondé en 1998, donc ça fait un bon moment, sous le nom Mediagriffe. Et à l'époque, exploitait les tout premiers réseaux qu'on appelait des places de marché, des réseaux verticales de commerce électronique. Et on a encore d'ailleurs certaines propriétés qui ont été fondées là dans les tout débuts de Mediagriffe qu'on exploite toujours. Au fil du temps, on a fait plusieurs acquisitions qui nous ont amenés dans le commerce électronique, autant du côté du commerce de détail, des grands détaillants, des PME et aussi des gouvernements. Fait qu'on est impliqué en fait dans toute la digitalisation du commerce auprès des organisations là, gouvernementales et privées. Alors, je me suis joint à eux en septembre 2019, là, suite à... En fait, c'est le CEO précédent avait quitté en mars 2019, puis il y a eu une recherche qui a été faite par le conseil d'administration. J'avais été contacté avec probablement beaucoup d'autres candidats, là, du moins l'information qu'on m'a donnée. Puis au fur et à mesure des conversations, ben moi, je trouvais ça de plus en plus intéressant. Puis il faut croire qu'eux autres aussi ont trouvé ça de plus en plus intéressant. Éventuellement, on m'a proposé de prendre la direction de la compagnie dans l'optique de mettre en place un plan de transformation assez ambitieux. Une compagnie qui avait eu, je dirais, un peu de décroissance ou de la stagnation depuis plusieurs années. Et qui cherchait un peu là, une nouvelle mission, une nouvelle âme, un peu un lustre. Là. T'sais, mes amis disaient, quand je me suis joint, ils disaient, voyons, Luc, Mediagriffe, c'est comme une compagnie un peu usée, peut-être un peu poussiéreuse. Ben justement, m'en vient dépoussiérer tout ça et re-shiner, remettre un peu de sizzle, je sais pas comment est-ce qu'on dirait ça en français, sur les actifs, parce que les actifs, à mon avis, étaient très bons, mais avaient peut-être été un peu délaissés, tout simplement, là. Donc, on a commencé dès mon arrivée là un plan de transformation pour ramener l'entreprise dans le haut de la du pavé, un plan d'affaires axé sur la croissance, la transformation digitale. Évidemment, on savait pas au départ là qu'il y aurait la pandémie qui se mêlerait de la chose. Ça, c'était pas du tout connu. Et très vite, en fait, dès Noël 2019 là, donc 3 mois à peu près environ après mon arrivée. On a commencé à plancher sur le nouveau plan, puis on a imaginé que ce serait nécessaire de changer le nom de la compagnie, tout en respectant ses racines et ses traditions. Donc, on voulait pas aller, on avait regardé beaucoup de possibilités. On voulait pas aller là, complètement autre chose non plus là pour complètement casser. Mais on pensait que c'était une bonne façon de redonner une grande dose d'énergie à la présence sur les marchés, autant du côté client que du côté employé, parce que déjà là on voyait qu'on avait de la croissance, puis l'attraction d'employés est un élément important. On était en train de convertir toutes nos applications. Faut savoir qu'une entreprise qui avait 25 ans, évidemment, avait développé des technologies avec les technologies de 25 ans auparavant. Alors, on était en plein début de notre transformation en entreprise info nuagique là, on travaille avec notamment AWS là-dessus, les gens d'Amazon pour amener nos applications à être capables de scaler, je m'excuse du mot anglais, beaucoup plus rapidement. Puis c'était le début, puis on a pensé qu'un rebrand permettait là de un peu marquer le coup, si tu veux là, de dire hey, il y a quelque chose qui a changé ici là, c'est plus la même compagnie qu'avant. Et voilà. On se retrouve maintenant là à peu près, ça fait un petit peu plus que 2 ans que je suis avec MDF Commerce et pas mal de choses ont changé en 2 ans, pas mal de choses.
Ben j'imagine, puis peut-être si vous pouvez nous en dire quelques-unes, parce que clairement changement de nom, changement de branding, on va en parler un petit peu plus tard. Vous avez fait des acquisitions également, certaines ont été assez importantes. Je serais curieux de t'entendre un petit peu sur ces changements que tu as fait là en 2 ans. Est-ce que autre que le nom, qui est quand même un très très gros changement, tu pourrais nous parler un petit peu où a été ton focus, où est-ce que tu as mis davantage de ton temps au cours des 24 derniers mois?
Ben en fait, le plan qu'on s'était fait, c'était, je pense qu'on avait des produits qui étaient intéressants, mais dans lesquels il y avait eu du en fait, il y avait pas eu d'investissement depuis un bon moment. On était dans le marché du commerce électronique. On a fait une acquisition très rapidement en commerce électronique, puis on a eu à, je dirais, mieux positionner nos produits. Fait que là aussi, il fallait mettre ça dans le cloud, fallait que ça performe beaucoup mieux. Les exigences de commerce électronique en 2020 puis celles de 2005, c'était pas les mêmes. T'sais, aujourd'hui, on s'attend à des plateformes mobiles, responsives, paiement intégré. C'est tout du one click le plus possible. C'était pas ça ces concepts-là au début. Fait qu'il y avait un bon rafraîchissement de nos différents produits qu'on a fait à la fois du côté commerce électronique ainsi que du côté approvisionnement stratégique pour les gouvernements. Fait que ça a fait partie là de chantiers importants du départ. On a évidemment, je dirais là, amené des nouveaux employés, de la nouvelle main d'œuvre, parce que comme il y avait de la croissance, on avait besoin d'aller chercher des nouveaux employés. On a capturé des nouveaux clients. On a fait 3 acquisitions, une en commerce électronique, 2 en approvisionnement stratégique, dont une passablement importante qu'on vient de compléter il y a à peine quelques mois. Plusieurs financements aussi. On a levé des capitaux sur les marchés de la bourse à travers là, différents véhicules de placement, des placements privés, des placements publics. Puis aujourd'hui, ben on est, tu sais, en termes de ressources, là, quand j'ai joint, on était un petit peu plus que 500 personnes. Aujourd'hui, on approche de 1000 personnes.
Wow.
L'année où moi je suis arrivé, on a fermé l'année à peu près à 74 millions de dollars. Cette année, on s'enligne autour de 115. Donc, tu sais, pour une entreprise qui avait pas eu de croissance depuis plusieurs années,
On a ramené des leviers de croissance d'abord en investissant dans notre fibre la plus profonde, là, qui était des produits de technologie, des logiciels de commerce électronique. On les a portés dans le cloud, notamment sur Amazon. On s'est assuré que tout ça était beaucoup plus en ligne avec les exigences des clients d'aujourd'hui. On est allé chercher des nouveaux clients. On a rendu nos anciens clients plus contents. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait une transformation.
Ben, au final, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, félicitations pour cette croissance-là. Et il y a un truc que te dit, Luc, j'ai fait mes recherches avant le podcast que j'ai trouvé totalement fascinant. Tu étais dans un entretien avec, je pense que le président, le CEO de Echelon Partners, qui, je crois, ont été des investisseurs ou vous ont aidé dans le financement dans les dernières années. Et tu lui disais spécifiquement que quand tu es arrivé, tu devais faire des investissements dans des produits, tu devais faire des investissements dans de la main-d'œuvre. Et ça allait se faire au détriment, pendant quelques temps, de couper les dividendes aux actionnaires. On devait couper les dividendes aux actionnaires pour réinvestir dans notre croissance. Et je crois que ça n'a pas nécessairement été 100% bien reçu par tout le monde. Peux-tu nous parler un petit peu de cet épisode-là? Parce qu'au final, ça t'a donné raison, tu as été capable d'amener cette croissance-là.
Ben, écoute, l'exemple que j'aime utiliser ici pour le rendre plus simple pour nous tous, c'est imagine un peu que tu avais un Saint-Hubert. Tu sais, à l'époque des Saint-Hubert, là, dans les années 80-90, là, la décoration était jaune, brun, avec des espèces de petites banquettes puis un petit muret là qui s'ouvrait entre les deux. Je sais pas, Antoine, si t'es déjà allé dans ce genre de Saint-Hubert-là.
Oui, je m'en rappelle un peu.
Bon, voilà. Et puis en 2000 aujourd'hui, en 2015, 10 ou 15, là, je me souviens plus quand ça a commencé exactement, mais Saint-Hubert ont vécu une espèce de cure de rajeunissement. Ils ont complètement transformé l'intérieur de leur restaurant. Aujourd'hui, ça a l'air d'un bar un peu branché. Tu sais, c'est des couleurs feutres, mauves. C'est plus à la mode. Donc, si toi, tu avais été propriétaire d'un Saint-Hubert dans les années 80, tu vendais du poulet, tu faisais de l'argent, c'était payant. Mais au fur et à mesure que la clientèle commençait à de moins en moins aller au resto, si tu t'étais arrêté à ne pas changer ton intérieur de restaurant, parce qu'on s'entend, là, ils vendent le même poulet. Là.
Ouais.
Le poulet, la sauce, ça n'a pas changé beaucoup. Okay? C'est pas mal la même chose. Le décor a changé. L'ambiance a changé. Si tu n'avais pas investi pour changer l'ambiance, ça se peut qu'aujourd'hui, ton Saint-Hubert, il marcherait plus du tout.
Exact.
Donc, pendant la période où tu as investi pour changer l'ambiance, c'est pas le temps de tirer tous les profits de la compagnie puis je sais pas, moi, de t'acheter un chalet en Floride avec. Et c'est un peu le même phénomène qu'on a eu besoin de faire. Les actionnaires avaient reçu beaucoup d'argent de Mediagriffe au fil du temps à travers des dividendes et pas assez d'argent avait été gardé pour réinvestir dans la compagnie, dans les produits. Donner un exemple bien simple, une de nos applications vedettes qui s'appelle Merckx, qui est une application d'approvisionnement stratégique utilisée en bonne partie par l'ensemble des provinces et des gouvernements du Canada, ne fonctionnait pas sur ceci.
Oh,
ne marchait pas sur mobile. Zéro. C'est pas qu'elle était pas belle, qu'elle était pas bonne. Elle ne marchait pas parce qu'elle avait été développée à un moment où ça n'existait pas. OK? Les gens ne faisaient pas de transactions mobiles. Comment peut-on aujourd'hui imaginer qu'un système de commerce électronique puisse fonctionner sans qu'il y ait au moins la capacité de faire quelque chose sur mobile? T'sais? Bon, ben, transformer l'application pour la rendre fonctionnelle sur mobile, c'est pas instantané. Ça prend des gens, ça prend des programmeurs, ça prend des développeurs, ça prend des designers, ça prend des changements. Ce qu'on a fait, mais pendant qu'on fait ça, ces gens-là, il faut bien sûr les payer. Ils viennent pas travailler malheureusement gratuitement, ça existe pas ça. Et cet argent-là, pour les payer, ben il faut bien le prendre quelque part, hein, parce que la somme des totaux, c'est implacable. Et on a effectivement dit que pendant un certain temps, on ne pourra pas offrir de dividendes à nos actionnaires, puisqu'on avait cette période de réinvestissement à faire. Certains ont dit, pas de problème, on est avec vous depuis longtemps, on continue. D'autres ont dit, bof, moi, non, je suis pas prête à supporter ça. Pour toutes sortes de raisons, là, c'est pas nécessairement qu'ils sont pas contents, mais différents actionnaires ont différents objectifs financiers.
Bien sûr.
Puis il y a certains actionnaires qui, eux, si tu payes pas de dividendes, ben ils veulent pas être propriétaires d'une partie de ta compagnie. D'autres préfèrent justement les compagnies qui sont en forte croissance, dont la valeur vient plutôt de la croissance que du paiement de dividendes.
Puis on avait fait une étude, là, les compagnies de technologie, règle générale, sont assez peu fréquentes à payer des dividendes. Ben, ce sont des compagnies qui ont des très fortes croissances.
Exact.
Fait que c'est tout simplement ça. C'était une question de rajeunir notre portefeuille d'applications, réorganiser tout ça, recruter les gens qu'on avait besoin de recruter pour faire fonctionner. Donc, voilà.
Puis pour situer l'audience aujourd'hui, c'est important de comprendre, MDF Commerce est une entreprise publique en ce moment. Donc, c'est ça que Luc faisait référence avec les actionnaires, les gens qui reçoivent des dividendes à la fin de la journée. Une autre question que j'aimerais amener à ton attention, Luc, on a eu une première discussion ensemble, on va dire, dans les premiers mois de la pandémie. Maintenant, on a beaucoup plus de rétrospection sur tout ce qui s'est déroulé. L'industrie du commerce en ligne, de la vente en ligne, du e-commerce en général a subi une accélération totale. Le site web TechCrunch disait d'ailleurs que l'accélération qu'on a été capable de voir en 2020, théoriquement, sans COVID, on l'aurait vécu en 2024-2025. Donc, clairement, les choses sont allées vite. À quel point vous l'avez senti, vous, dans votre cure de rajeunissement total? Tu sais, parce que vous avez changé l'entreprise, vous avez changé le nom et vous étiez également dans une vague où est-ce qu'il y avait beaucoup de changements qui se passaient dans l'industrie du commerce en ligne. Comment tout ça vous a impacté avec un petit peu de recul qu'on a maintenant?
Ben, écoute, je te dirais que, tu sais, printemps 2020, été 2020, là, on a subi littéralement une énorme crise de croissance.
Une crise de croissance.
Littéralement, là, je pense que le chiffre exact, là, je peux peut-être me tromper un peu, mais quelque chose qu'au mois de juillet ou 2020, là, il nous manquait, on était peut-être 750 personnes, puis il en manquait 150. Il nous manquait de gens pour faire le travail qu'on avait à faire parce que la clientèle venait à nous en mode très urgent, avait besoin d'organiser un canal de commercialisation en ligne parce qu'ils sentaient qu'ils perdaient des parts de marché par rapport à certains de leurs concurrents qui en avaient puis qu'eux en avaient pas. Et là, on a véritablement eu une accélération importante d'acquisition de clients. Maintenant, chez nous, on livre des logiciels qui s'intègrent à toutes les opérations de nos clients. Puis l'exemple qui est le plus facile à comprendre, c'est on a pas mal de clientèle en épicerie. Et lorsqu'une épicerie qui a pas de commerce électronique désire implanter le commerce électronique, c'est pas comme une petite boutique du Mont, tu sais, une petite boutique qui vend de l'artisanat, je sais pas, moi, sur Mont-Royal, qui se fait un petit système de commerce électronique.
C'est pas
électronique,
un petit Shopify, ouais.
C'est pas une petite application, là, avec une couple de photos, là. Parce que quand tu commences à équiper une épicerie au complet en commerce électronique, ben, faut que tu te connectes au système d'inventaire. Parce que toi, si tu veux une canne de soupe aux tomates Campbell, il faut que tu puisses savoir s'il y en a des cannes de soupe aux tomates. Ça prend des photos de toutes ces affaires-là. Ça prend, faut que ça soit connecté avec les systèmes de caisse. Faut que ça soit connecté avec les systèmes financiers. Faut que ça soit connecté avec les systèmes de livraison. Puis l'épicerie, c'est un petit peu plus compliqué que des disques, de la musique ou des livres. Ouais. Parce que dans l'épicerie, il y a des produits congelés. Il y a des choses, tu sais, des petits pois congelés, de la viande congelée. Il y a des produits qui doivent être réfrigérés. Certains, c'est de la viande, des fromages, du lait. Et d'autres produits qui sont en température de la pièce, évidemment, des canages, des fruits et légumes. Il y a des produits frais qui peuvent pas être laissés en attente longtemps pour avant d'être livrés. Il y a des produits que non, c'est correct, on peut toujours les envoyer. Il y a l'emballage. Fait qu'un système de commerce électronique pour une épicerie, c'est un gros changement. C'est un gros affaire. Et on a besoin de personnel pour faire toutes ces connexions-là avec leur système, faire la personnalisation pour chacune de nos clients. Puis à un moment donné, ben, on manquait de personnel parce qu'on n'était pas la seule entreprise qui cherchait des experts en digitalisation. À peu près toutes les entreprises au monde, en même temps, cherchaient des experts en digitalisation. Fait que c'était plus, je sais pas, moi, nos habituels concurrents qui cherchaient du personnel. C'était tout le monde, là. Puis si on parle de local ici à Montréal, c'était des banques, c'était Hydro-Québec, c'était Desjardins, c'était presque toutes les entreprises qui existaient cherchaient à informatiser, digitaliser leur processus. Puis pour ça, ben ça prend des informaticiens en bonne partie, des analystes d'affaires. Fait qu'on cherchait tous à peu près le même sorte de monde, puis il y avait une demande énorme. Alors, la crise de croissance a été importante. Alors, évidemment, ben qui dit crise de croissance dit, ben on perd un peu le focus complet de ce qui se passe. Ça va vite. On engage beaucoup de nouveaux. On n'a pas assez de temps à passer avec eux. Puis, oublions pas qu'il n'était pas question de voir qui que ce soit en personne.
Non, c'est ça.
On engageait tous ces gens-là en les voyant une première... Tu sais, la seule fois qu'on les voyait, c'était sur un écran. Nos processus d'embauche ont eu à être révisés. Comment est-ce que tu évalues quelqu'un quand tu peux pas le voir, tu sais. Les gens, quand ils commençaient à travailler, ben comment t'es accueillis, comment t'es formes, comment t'es, on a eu à adapter tous ces processus-là. Les clients qu'on signait, on n'allait jamais les visiter. On a signé nos plus gros clients à vie qu'on n'a jamais vus. Jamais. Pas une seule fois. Fait qu'il fallait des processus de livraison de logiciels à distance. Il y a eu beaucoup d'adaptations qu'on a dû faire tout d'un coup, très rapidement. Fait qu'évidemment, ben en faisant tout ça très vite, ben il y a quelques balles des fois là qu'on échappe. Puis là, ben faut les rattraper, faut se reprendre. Fait que ça a été extrêmement dynamique, extrêmement intense là dans tous les sens du terme. Fait que, ça a été une période bien intéressante. Ceci dit, ça l'a vraiment créé cette dynamique-là. Puis je suis d'accord avec ce que tu disais, c'est qu'en une année, on a peut-être fait ce qu'on aurait pris 5 ans à faire dans des conditions normales.
Si vous écoutez le podcast Hypercroissance, j'assume que vous dirigez une entreprise qui désire obtenir une croissance accélérée. J'imagine également que beaucoup d'entre vous possédez une organisation qui vend en ligne et qui désire aller chercher plus de parts de marché. Eh bien, si c'est le cas, sachez que J7 Media veut vous aider. Et la première étape pour vous donner un coup de main avec votre croissance est de diagnostiquer votre situation actuelle. Donc, si vous possédez un commerce en ligne et que vous désirez l'amener à un niveau supérieur en 2022, rendez-vous au www.j7media.com/diagnostic. Donc, je le répète, www.j7media.com/diagnostic afin d'obtenir 100% gratuitement une analyse de vos performances numériques. L'équipe qui est derrière plus de 30 millions en investissements publicitaires Facebook à l'année veut vous aider à grandir et tout se commence par un diagnostic de vos efforts actuels. Donc, je le répète, j7media.com/diagnostic afin d'obtenir une analyse 100% gratuite. De retour à l'épisode en cours.
Ça a été assez impressionnant tout ce qui s'est déroulé en commerce en ligne. Je pense que c'est pour le mieux. Je pense que beaucoup d'organisations qui perdaient un peu de temps sur certains... peut-être qu'ils voyaient pas l'importance. Maintenant, tout le monde comprend l'importance du commerce en ligne. Puis... parlant de croissance, de développement que vous avez fait dans les derniers mois, dans les dernières années, tu l'as mentionné plus tôt, quelques acquisitions. Une qui a été faite il y a quelques mois de ça, avec un montant sensiblement important. Ça a été rendu public. Donc, vous avez fait l'acquisition de Periscope Holdings pour près de 260 millions de dollars l'été dernier. Peux-tu partager avec nous les dessous de cette transaction-là qui semble, selon toute vraisemblance, a l'air d'être très stratégique parce qu'il a l'air d'avoir une grande synergie entre ce que MDF Commerce fait et également ce que l'autre organisation, Periscope Holdings, fait également, celle que vous avez acquise.
Alors, écoute, on était en contact avec les gens de chez Periscope, ça fait au moins probablement fin d'année 2020. Voilà, fin d'année 2020, là, autour de octobre-novembre. On avait dans notre plan stratégique de consolider l'espace autour de l'approvisionnement gouvernemental et on avait plusieurs cibles. On a d'ailleurs acheté une qui s'appelait Vendor Registry, puis on avait toute une liste de cibles qui nous intéressaient, dont la compagnie Periscope, avec qui on a fait différentes approches là au fil du temps. Pourquoi il nous intéressait Periscope? Ben, deux raisons. La première, c'est que c'est une entreprise avec laquelle on concurrençait depuis déjà une bonne vingtaine d'années, qui offrait un certain nombre de produits très similaires aux nôtres. Mais là, il y avait de la complémentarité de clientèle. Tu sais, ça avait un premier niveau d'intérêt. Mais Periscope, eux, avaient eu des investissements importants qui avaient été faits en 2014 ou 15. Et ils avaient développé toute une plateforme qu'on appelle un marketplace transactionnel pour les gouvernements. Et ça, pour nous, c'était extrêmement stratégique. Parce que grâce à cette plateforme-là, on est capable d'informatiser ou de digitaliser les processus d'achat gouvernementaux d'une manière incroyablement efficace. Parce qu'il faut se mettre un peu dans la peau d'un gouvernement là qui, tu sais, imagine, t'es un employé au ministère de l'Agriculture, tiens, puis tu fais des inspections de fermes, etc. Puis à un moment donné, t'as besoin de gants, de nouveaux gants, de nouvelles bottes. Là. Tu fais ta demande, écoute, j'ai besoin de gants, des bottes pour ma section. J'ai 22 employés qui ont besoin de tout ça. Puis là, ben ça monte d'un niveau, ça va à un autre niveau d'approbation. Faut qu'il y ait un appel d'offres qui soit fait. Ça prend quelqu'un qui envoie à des fournisseurs de bottes puis de gants. Ben on a besoin d'acheter 250 paires de bottes, 250 paires de gants de telle taille, telle dimension. Ça coûte combien? Comment ça marche? Tout ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de manuels. C'est des fax puis des emails qui s'envoient à gauche et à droite. Et ce que Periscope avait développé, c'est une technologie de marketplace dans laquelle tout ce processus-là devient digital. Et lorsque tous les contrats sont entrés dans le système, en fait, n'importe qui travaille dans un gouvernement, une municipalité, une commission scolaire peut magasiner sur un site qui ressemble à n'importe quel site de commerce électronique qu'on connaît aujourd'hui, là, tu sais, Amazon, par exemple, et de voir quelles sont la liste des biens et services qui sont approuvés, accrédités, avec les prix, peut les comparer, et de faire ses achats en ligne comme toi, tu ferais tes achats de n'importe quel produit ou service que tu utilises pour ta maison. Les paiements sont intégrés avec les systèmes gouvernementaux, les inventaires, tout ça. Ça fait que ça digitalise l'ensemble du processus et ça le rend extrêmement efficace. Et Periscope venait à peu près de venir de terminer ce développement-là. Et on a pu travailler avec eux là afin de créer cette compagnie-là qui aujourd'hui est tout à fait dominante en Amérique du Nord. On est unique à offrir une solution aussi complète. On l'appelle Procure to Pay. Fait que, on a des clients maintenant dans 40 États, 10 provinces. On a un peu plus de 500 000 fournisseurs qui sont inscrits sur l'ensemble. Puis on est à travailler à intégrer tout ça ensemble, ce qui va permettre éventuellement à presque n'importe qui dans n'importe quelle organisation gouvernementale de procéder à l'achat des biens et services communs. Là. On parle pas d'acheter des avions ou des sous-marins nucléaires. Là. On parle, tu sais, on n'imagine pas tout ce que les gouvernements peuvent acheter, mais ça peut être des services de cafétéria, ça peut être des uniformes, ça peut être des vêtements, des véhicules, du sel pour étendre sur les routes l'hiver, ça peut être des services d'informatique, ça peut être des ordinateurs, ça peut être des abonnements à différents logiciels, Oracle, etc. Microsoft, tu sais, presque tous les employés qui travaillent au gouvernement utilisent Microsoft. Ils ont besoin d'acheter des licences, etc. Et ce processus-là, donc, on l'automatise, on l'informatise et on a maintenant une position dominante. Là. Ensemble avec Periscope, on a environ 6000 agences gouvernementales à travers le Canada et les États-Unis qui sont sur nos programmes dans un marché d'environ 100 000 agences. T'sais, ce qui nous donne une part de marché de l'ordre de 6%. Puis on estime qu'on est le plus gros joueur avec cette part de marché-là. Puis évidemment, bien, on veut continuer à faire des acquisitions, continuer à aller chercher d'autres entreprises, grossir notre part de marché sur une base organique, mais aussi d'y ajouter via des acquisitions. Fait qu'on est sur ce plan-là qui était exactement ce qu'on avait documenté dans notre plan il y a à peu près 2 ans. Fait qu'on est pile poil aligné sur ce qu'on voulait faire. Fait que très, très content de comment ça se passe à date.
COVID, pas COVID, vous suivez le plan, c'est tout à votre honneur. Je serais curieux, petite question ici. Quand vous faites les acquisitions comme ça, est-ce que tout ça s'intègre à la famille MDF Commerce? Est-ce que ces entités continuent d'opérer de manière indépendante? Comment ça se matérialise tout ça?
En fait, nous avons pris la décision lors de la confection du plan que justement, on voulait créer une entreprise sous une marque, sous un modèle opérationnel et non pas être ce que j'appelle une constellation d'entreprises, faire une acquisition puis ils continuent à travailler comme ils faisaient avant. Donc oui, nous intégrons totalement. Aujourd'hui, si tu viendrais, ben là aujourd'hui ça vient d'arriver, fait que c'est pas encore organisé. Mais justement, vendredi dernier, j'étais au Texas au bureau chef où est Periscope. Et on a annoncé la nouvelle équipe de direction, le nouveau mode de fonctionnement, le plan d'intégration, le plan de développement et l'équipe de direction de ce service-là. En fait, c'est le fun parce que c'est 8 personnes, dont 4 qui venaient de Periscope puis 4 qui venaient d'MDF. Et ensemble, cette équipe de direction-là va diriger tout le plan d'affaires de la digitalisation de l'approvisionnement gouvernemental à travers le Canada et les États-Unis. Alors, c'est vraiment, là, bon, aujourd'hui, on peut encore un peu distinguer les morceaux, mais donne-y un autre 6 mois, puis on pourra plus savoir là, qui était un ancien d'MDF, qui était un ancien de Periscope. Là. Fait que c'est le genre de choses que même dans le discours, là, moi, j'essaie de faire attention, puis je dis aux gens, là, faut pas parler de « eux » puis « nous ». Ça existe pas, ça, « eux » puis « nous », c'est « nous ». Il n'y a plus des « eux ». C'est pas vrai. Là. On est ensemble, on est dans le même bateau, puis on rame tous dans la même direction.
Puis, est-ce que c'est la niche que vous allez suivre à 200-300% dans les prochaines années? Donc, tu dis que vous aviez plusieurs produits. Donc là, j'ai l'impression peut-être que vous avez fait l'acquisition pour vraiment desservir une niche en particulier, celle des agences gouvernementales. Est-ce que c'est vraiment là que tous les efforts de MDF Commerce vont aller dans les prochaines années ou il y a encore d'autres produits qui desservent d'autres niches de clientèle?
En fait, on a deux plateformes principales. Le commerce électronique du côté vente, pour notamment les détaillants, les épiceries, et le commerce électronique aussi, mais du côté gouvernement pour les achats. Puis ça, ben on pense que c'est deux technologies. Non, c'est quand même un peu la même chose.
Ouais.
Parce que si je vais installer un système de commerce électronique chez IGA, c'est pour que IGA puisse vendre ses produits à ses clients. Puis quand on installe un système de commerce électronique au gouvernement, c'est pour que le gouvernement puisse acheter ses produits chez son ensemble de fournisseurs. Fait que c'est juste deux bouts de la même lorgnette, là. C'est pas totalement différent, mais le marché, les clients ne sont pas les mêmes. Fait que il y a une partie qui va vers l'approvisionnement gouvernemental, puis une autre partie qui va vers le commerce électronique, détail et nourriture.
Intéressant tout ça. Il y a une autre chose que tu as mentionné dans un entretien que j'avais trouvé ça assez drôle. Donc c'est un employé, spécifiquement un employé en technologie comme un programmeur. Donc je te cite ici: ne se réveille pas le matin en se demandant comment on peut générer de l'argent pour une entreprise. Donc tu avais dit ça dans un entretien. Puis tu prenais un exemple qui est arrivé, je ne pense pas que c'était chez MDF Commerce, je pense que c'était dans une autre entreprise, qu'un jour dans une rencontre avec votre CFO, vous mentionnez un petit peu à vos employés que vous aviez des problèmes avec vos gross margins. Je pense que l'entretien était en anglais, donc en français, on parle ici de marge brute. Soudainement, il y a un employé qui s'est levé, il a dit « C'est quoi ça, la grosse margine? On la connaît pas. » Puis bref, tu utilisais l'exemple dans un entretien pour dire que c'est pas vrai que tous les employés se lèvent le matin en pensant comment qu'on augmente les profits, comment qu'on augmente les revenus. Des programmeurs se lèvent peut-être le matin pour essayer d'améliorer le produit qu'ils vont offrir à leurs clients, d'être heureux dans le travail qu'ils font. Et si tu veux bâtir une bonne vision, une bonne mission d'entreprise, tu dois prendre les envies de tout le monde ensemble et d'en faire une vision commune. J'aimerais t'entendre là-dessus. Quand t'as repris MDF, qui était Mediagriffe en septembre 2019, comment as-tu été capable de bâtir cette mission-là, d'articuler les valeurs de l'entreprise pour que tout le monde sache pourquoi ils se lèvent le matin et pourquoi ils vont travailler pour vous?
Écoute, ce que tu mentionnes là, c'est pour moi, c'est une des bases du leadership. C'est-à-dire que des employés, ce sont des humains qui font un certain travail, qui ont un métier. Qu'ils soient boulangers, garagistes ou programmeurs, ils ont un métier. Notre travail comme entrepreneur, c'est de faire travailler des groupes de gens ensemble, plus ou moins importants, afin de développer un produit. Une boulangerie, ça développe du pain. Un garage, ça construit ou ça répare des autos. Ben nous, on construit des logiciels, puis on répare des logiciels aussi. Ces employés-là, ce ne sont pas des financiers. Bien sûr, j'ai un département de finances. Puis un département de finances, on peut leur parler d'argent, de marge, de croissance, parce que leur métier en finance, c'est de gérer de l'argent, c'est de comprendre les éléments associés à l'argent, les flux financiers, etc. Le boulanger moyen qui travaille dans une boulangerie, lui, écoute, là, il brasse de la farine, du pain, de la levure, de l'eau, je sais pas moi, des raisins, etc. Il manipule pas de l'argent. Son métier n'est pas de transformer de l'argent. Le fruit de son travail va créer de l'argent avec lequel la boulangerie va pouvoir payer ses employés. Mais quand tu adresses la vision de l'entreprise, quand tu adresses les valeurs de l'entreprise, à moins que tu sois une banque, bien sûr, parce que là, les employés d'une banque, leur produit, c'est de l'argent. Mais si ton produit, c'est comme nous, des logiciels, il faut traduire la mission de l'entreprise en termes de quelque chose que quelqu'un se lève le matin puis comprend bien et ça a une relation avec son travail. Donc, on essaye de définir pour chacun de nos groupes des objectifs qui correspondent à leur métier et leur travail. On a du personnel qui développe des logiciels, c'est des développeurs. Fait qu'eux autres, on leur demande de faire des logiciels avec de la qualité, pas de bugs, pas d'erreurs, des choses comme ça. On a du personnel qui fait du service à la clientèle, qui répond aux clients qui ont des problèmes, puis qu'ils essayent de faire quelque chose qui marche pas. Ben, on essaye de leur dire, ben, faut que tu aies traité un certain nombre de clients, faut que tu aies traité un certain nombre de problèmes, faut pas que ça prenne plus que tant de temps à régler tes problèmes. Et ainsi de suite. T'sais, on a des employés qui font de l'installation de nos logiciels chez les clients, ben, ils travaillent sur des projets. Fait qu'eux, ils viennent, ils doivent comprendre qu'est-ce qu'ils font les clients, ils doivent comprendre comment faire pour brancher les différents morceaux ensemble. Et chacun a son métier. Puis, on s'est donné une série de valeurs. On a des petits crestes ici. Là. Et ça n'existait pas, ça, avant. Là, t'sais. Et ces valeurs-là parlent à tout le monde. Que tu sois dans le département de finances ou dans le département de logiciels, viser haut, agir vite, oser penser différemment, être imputable. Si tu as à finir ton travail de programmeur pour 5 heures ce soir, faut que tu le finisses à 5 heures ce soir. De faire preuve d'intégrité avec toi-même, avec tes collègues, avec tes clients et surtout, bien important pour nous, de veiller au bien-être de nos collègues et nos clients. Et qu'on a défini ces valeurs-là, puis on a défini un ensemble de quotidiens pour chacun de nos métiers principaux, de comment ces valeurs-là se déclinent au quotidien. Pour quelqu'un dans le groupe finance, qu'est-ce que ça veut dire être imputable? Pour quelqu'un qui est un programmeur, qu'est-ce que ça veut dire être imputable? Pour quelqu'un qui est au service à la clientèle, qu'est-ce que ça veut dire faire preuve d'intégrité? Fait qu'on a décliné ça dans des comportements au quotidien. C'est beau, une belle valeur, là, un poster dans une salle de conférence, mais quand j'ai un problème aujourd'hui avec un client qui, je sais pas, moi, il est pas content, un collègue avec qui je me chicane pour une affaire ou un autre, comment j'applique ces valeurs-là? Puis on a fait ça, et ça, ça a vraiment permis de souder les gens ensemble, puis de créer cette perception de dire, hey, on travaille tout ensemble vers un objectif commun. Puis l'objectif commun, ben évidemment, c'est de faire des beaux logiciels qui répondent aux besoins des clients, de bien les servir, afin que nos finances aillent bien. Puis si nos finances vont bien, je vais être bien traité, je vais être bien payé. Puis comme je vais être bien payé, je vais être formé adéquatement, je vais être au courant des nouvelles technologies, je vais faire des meilleurs logiciels qui vont servir d'autres clients, qui vont être contents, qui vont faire que nos finances vont bien. Puis là, tu pars l'espèce de roue de la vertu qui fonctionne bien. Et c'est ça, le leadership, c'est ça pour moi le donner aux gens un sens à leur travail, de donner une mission qui correspond à leur travail. Si tu essayais de faire la même chose dans une boulangerie, ben tes boulangers, tu leur parlerais de pain puis de clients puis de choses qui sentent bon ou de gâteaux. Tu leur parles pas de c'est quoi la marge de profit sur une baguette. Je pense pas que le boulanger moyen dans une boulangerie s'intéresse beaucoup au profit sur la baguette. Et ce qui veut pas dire qu'il veut pas être payé, il veut être bien payé. Il veut comprendre c'est quoi son salaire. Mais le profit sur une baguette, là, c'est pas sur son travail.
C'est totalement fascinant ce que tu viens de dire, parce que très souvent, les entreprises vont bâtir certaines valeurs, vont évoquer certaines valeurs à leurs employés, mais ce que tu as mentionné, de définir par la suite des comportements qui te fait vivre cette valeur-là, qui te prouve si oui ou non tu es capable de l'intégrer dans ton quotidien, je trouve ça assez intéressant ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai, hein, des fois, on peut mentionner une valeur, mais ça veut dire quoi vivre cette valeur-là? Donc, si tu es capable de définir des comportements selon des départements, je pense que ça peut faire toute la différence. Assez intéressant ici, Luc. Dernière question que je te poserai peut-être avant d'arriver sur un volet un petit peu plus personnel. Tu le disais, vous aviez eu peut-être des enjeux de main-d'œuvre quand vous avez vécu cette crise de croissance-là, beaucoup de gens employés. Est-ce que votre vision elle a beaucoup évolué dans les deux dernières années sur la localisation de la main-d'œuvre, sur le travail à la maison, le travail au bureau? Est-ce que vous avez des gens qui vont opérer dans des pays différents? Comment ça se déroule présentement chez MDF Commerce?
La réponse c'est à tout ça, c'est oui à toutes ces réponses-là. Tu sais, si on fait un choix de réponse, là, on a un peu toutes ces situations-là. Nous sommes toujours en très, très, très grande partie en télétravail. Il y a quelques personnes qui sont au bureau, mais c'est minime, minime, minime. Là, c'est 1-2% de nos employés totaux. Puis c'est ceux qui ont besoin d'être là parce qu'ils travaillent sur certains serveurs physiques ou des objets. Là, bien qu'on a en très grande partie converti nos affaires dans le cloud, notamment sur Amazon, on a encore quelques serveurs qui traînent nos bureaux, qui des fois faut les toucher. On peut pas les réparer à distance. Mais la très grande majorité de nos employés travaillent à distance, ce qui nous a amené à pouvoir profiter des services de gens qui étaient pas nécessairement localisés à côté. On a ouvert un centre de développement en Ukraine. On commence à avoir une équipe d'une taille intéressante en Ukraine. On a certains de nos employés qui ont demandé de pouvoir se relocaliser. Fait qu'il y en a qui sont relocalisés ailleurs au Québec, mais il y en a d'autres qui sont carrément relocalisés dans d'autres pays. Donc là, on doit naviguer ces choses-là. Fait qu'on s'est adapté à la situation. Comme on est en très forte croissance, ben il y a un bon côté, c'est qu'on peut recruter un peu n'importe où. Ben oui, je peux engager quelqu'un qui est à Miami, puis il peut travailler à partir de Miami, parce que de toute façon, c'est pas quelqu'un qu'on voit souvent. Ceci dit, ben on a le phénomène inverse, c'est que toutes les entreprises recrutent un peu partout, puis là, ben il y a une espèce de grande chasse aux employés, et nos employés sont sollicités parfois là de toutes parts pour travailler pour d'autres entreprises qui sont pas dans le bassin là régional où nous œuvrons. Et aujourd'hui, on a à peu près une douzaine de sites aux États-Unis, au Canada, dans plusieurs États américains, on a en Europe, et on a des employés donc localisé un peu partout, puis ça devient de plus en plus inévitable d'avoir sur n'importe quel projet des gens qui sont pas dans le même lieu. Fait que la notion de se dire on s'en va tout au bureau pour travailler ensemble, c'est la même chose, on dirait qu'elle devient théorique un peu, parce que dans les projets avec lesquels on travaille pour les gouvernements américains, mettons, ben c'est sûr qu'il y a du monde de nos bureaux aux États-Unis, mais il y a du monde de nos bureaux à Longueuil, puis il y a même des fois du monde de nos bureaux en Europe. Alors, quand on a des gens qui travaillent sur un seul projet dans trois localisations comme ça, ben ils travaillent à distance. Puis à partir du moment où ils travaillent à distance, qu'ils soient de chez eux, d'un cubicule ou d'un bureau à leur bureau, ou qu'ils soient à leur chalet, tant qu'ils ont une connexion Internet puis un ordinateur, ça fonctionne très bien. Donc, on s'en va vers un modèle hybride comme ça où c'est clair que de notre côté, là, il y a absolument pas de forcer les gens à travailler du bureau. On est très à l'aise avec le travail à distance. Ceci dit, on va encourager nos gens quand même à se rencontrer régulièrement pour au moins garder le contact humain et l'attachement à l'entreprise. Que ça, ben à la longue, c'est un peu difficile à faire à distance.
Définitivement. Dernière question que je te pose, Luc, avant de te laisser filer à ta journée, qui à mon avis doit être très chargée. Bien entendu, en ce moment, tu diriges MDF Commerce. On le dit dans le podcast numéro 34. D'ailleurs, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui n'auraient pas écouté l'épisode, je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. On en avait parlé, tu as dirigé beaucoup d'organisations depuis plusieurs années maintenant. Je serais curieux si tu revenais au début de ta carrière à la fondation Neuron quand tu étais en train de lancer l'organisation. Qu'est-ce que le Luc Filiatro de 2021 dirait au Luc Filiatro qui débute sa carrière avec Neuron?
Si j'étais, qu'est-ce que tu sais, on dit souvent si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. J'ai l'impression que j'aurais pas pu dire des choses au jeune Luc parce que c'est le temps et l'expérience qui m'a amené à les connaître. Puis je vais donner l'exemple, tu sais, beaucoup de gens ont des enfants, la très grande majorité des gens ont des enfants. Et t'as beau expliquer 10 fois à un enfant qu'il faut pas toucher la poêle ou le rond du poêle parce que c'est chaud. Il en a une connaissance théorique, il sait peut-être c'est quoi c'est chaud, mais un jour ou l'autre, il finit par étouffer juste pour l'essayer. Puis là, il se brûle le bout du doigt, puis là, il dit « Ah, OK, ça, je le ferai plus. » Fait que c'est un peu la même chose. C'est sûr, bon, ça fait une bonne 35 ans que je travaille. Oui, bien sûr que beaucoup d'expérience acquise, beaucoup de situations que j'ai pu changer, corriger, arranger, beaucoup d'erreurs que j'ai faites. Et souvent, c'est l'inexpérience, c'est pas nécessairement la non-connaissance. T'sais, ce que je pourrais dire, c'est sois attentif, attention aux autres, pique pas des colères pour rien. Mais c'est assez normal que jeune, t'as pas la patience que t'as parce que tu penses que tu peux, en criant un peu plus fort, en poussant un peu plus, tu vas le faire les choses. Mais il y a un homme sage à un moment donné qui m'avait dit, on peut pas faire pousser les fleurs plus vite en tirant dessus. Tu vas juste les arracher. Fait que s'il y a une chose que je dirais au jeune Luc, c'est ça. Ceci dit, je comprends tout à fait que le jeune Luc, t'as beau y dire, écoute, tire pas ses fleurs, tu vas juste les arracher. Il veut quand même essayer de faire quelque chose. Puis tant qu'il n'en aura pas arraché une coupe, il va continuer probablement à essayer de tirer dessus. Fait que c'est une leçon de vie assez humble, l'humilité, je dirais, une leçon d'humilité. Mais c'est ça que s'appelle l'expérience, je crois. Il y a pas une recette magique, parce que sinon, ça ferait, on l'aurait enseigné depuis longtemps, puis un jeune qui sort de l'école pourrait faire exactement la même chose que quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, et c'est pourtant pas le cas.
C'est très sage comme réponse, j'aime beaucoup. Luc, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui avec nous. Puis peut-être, pour les gens qui nous écoutent, comment on peut aider MDF Commerce présentement? Est-ce que vous avez des postes ouverts? Comment qu'on peut en apprendre un petit peu plus sur vous?
Ben écoute, le mieux, c'est de venir visiter notre site web, hein, mdfcommerce.com, c'est bien simple. Puis oui, je pense qu'on est à une 60aine ou peut-être même un peu plus de postes ouverts en ce moment. Ça va dans notre groupe de finances, évidemment, des programmeurs et autres. Puis gênez-vous pas pour acheter vos trucs en ligne. Vous passez probablement sur un de nos sites à un moment ou un autre. Pour ceux qui sont ici au Québec, on travaille notamment avec la SAQ et la SQDC. Fait que si vous êtes consommateur d'un de ces deux organismes-là, ben vous passez à travers nos systèmes. Donc voilà, je vous souhaite bien du plaisir. Puis oui, on a c'est le fun de travailler chez nous, du moins c'est ce qu'on me dit.
Bon, ben on va mettre un lien dans les notes de l'épisode. Luc Filiatro, merci énormément d'avoir été pour une deuxième fois sur le podcast Hypercroissance. Toujours un honneur, toujours un plaisir de discuter avec toi. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.
Toujours un énorme plaisir de parler affaires avec Luc Filiatro. Sa vision du monde des entreprises est développée comme peu de gens que j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie. Sa vulgarisation aide également à comprendre des sujets qui sont complexes, mais qui, venant de la bouche de Luc, paraissent donc simples. Également, continuez à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis à chaque semaine, j'adore discuter avec vous. Et plus souvent qu'autrement, vous me donnez de super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.